C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous arrivons au terme de cette chronique de l'ascenseur du mensonge. Quelques considérations et quelques maximes pour finir en beauté cette expédition. On ne débat plus, on verrouille. On vous condamne sans débattre du fond. On supprime des fréquences, on frappe au portefeuille, on menace de prison, voire de mort sur les réseaux sociaux. Comme toujours, cela a débuté en frappant des personnages honnis pour leurs idées. Lorsque Renoir, négationniste avéré, sortit un livre alléguant que les villageois d'Oradour, prisonniers dans leur église, étaient morts non par incendie, mais par l'explosion de munitions qui stockaient les maquisards, ainsi qu'en attestaient leurs corps déchiquetés, le trublion fut condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, sans confrontation avec la thèse officielle. Car il y a des totems sacrés, piliers de soutien de la vérité. S'y attaquer, c'est comme insinuer que Laval, homme de gauche, fut à l'origine de lois sociales. Qu'il faillit neutraliser Hitler en s'entendant avec Mussolini, mais que les Britanniques firent échouer ce front du Sud qui eût évité la guerre. Que le régime de Vichy mit en place retraite par répartition et par capitalisation et préfigura la sécurité sociale de 1945 bâtie par des fonctionnaires qui avaient servi Pétain. Il est des faits historiques qui s'apparentent à de la dynamite. Ne pas ouvrir le débat mais l'empêcher, au nom de quel grand principe? Le peuple serait-il jugé trop bête pour qu'on lui dicte un prêt-à-penser calibré, quitte à lui voler l'élection et à le priver de référendum sur des sujets trop graves pour qu'on lui demande son avis? Lorsqu'on découvre que des comptes sur X qui harcèlent les opposants, les diffament, les insultent et même demandent leur incarcération, sont missionnés par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées qui leur fournissent des éléments, on pressent que nous sommes dans un univers glauque où le nombre de suicidés dans la DGSI et parmi les gêneurs pour le pouvoir en place rendrait Poutine jaloux. Ce qui est en train de tuer l'Occident, c'est son aptitude à persister dans l'erreur tout en sous-estimant la partie adverse par arrogance. Quand les premières automobiles japonaises arrivèrent en Europe, on ricana. Quelques années plus tard, Toyota nous virait d'Afrique. Quand les premières voitures coréennes se présentèrent, on se gossa. Pâle copie d'européennes dépassées, elles avaient pour elles le prix. Avec les volumes vendus, les Coréens se payèrent des designers italiens, puis des motoristes. Et soudain, les sourires condescendants se figèrent. Pour les Chinois, considérés comme des copieurs incapables d'innover, la surprise est dramatique. La vision binaire des bons et des méchants et l'incapacité de nos dirigeants à corriger le tir nous conduit au déclassement. La guerre en Ukraine en est un exemple flagrant. Suiveurs des anglo-saxons dans le piège, nous y sommes enferrés et Washington, qui s'en dégage, réussit l'exploit de nous vendre à un prix exorbitant du matériel obsolète pour ralentir une défaite inéluctable. Nous avons perdu le sens commun en exigeant des Russes victorieux contre une coalition de plus de 50 nations de payer un loyer aux Ukrainiens pour des territoires récupérés par les armes. Imagine-t-on en 1918 la France victorieuse acquittant des loyers pour l'Alsace-Lorraine? On nous parle de ces volontaires étrangers partis sauver l'Ukraine. On garde le silence sur ces Ukrainiens qui ont rallié les Russes, le méconnu bataillon Krivonos. On fait silence aussi sur le fait que Zelensky, devenu populaire pour avoir interprété un professeur élu président sur un programme anti-corruption, est à présent copropriétaire de sociétés au Belize, aux îles Vierges britanniques et à Chypre, et se retrouve à la tête d'un patrimoine immobilier colossal, tandis qu'à Odessa, les habitants délivrent des enrôlés de force en brisant les vitres d'un bus.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire. N'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner du sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Notre propension à prendre nos désirs fantasmagoriques pour la réalité trouve encore à s'appliquer à Gaza avec ce plan américain visant à créer sur les ruines palestiniennes une riviera pour milliardaires, gérée cerise sur le gâteau par Tony Blair, en somme un protectorat américano-britannique qui ferait face rapidement aux attentats menés par le Hamas d'une part et par les extrémistes juifs de l'autre, lesquels n'accepteront jamais que les Anglais remettent les pieds comme gouverneurs d'une part du Grand Israël. Nous préparons ainsi les guerres de demain, ce que nous avons si bien su faire par le traité de Versailles, entre autres bévues. Surestimant nos capacités, surévaluant également celles d'Israël, nous découvrons que les Houthis, même abandonnés par l'Iran, peuvent paralyser nos pétroliers géants. Quelques drones survolent des centrales nucléaires ou une base de sous-marins d'attaque et nous voici en panique, car notre République a ceci de cocasse qu'elle se réclame de Voltaire en matière de tolérance en lui attribuant la célèbre formule « Je ne partage pas vos idées ». Mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. Sauf que cette phrase date de 1906, sous la plume d'une anglo-saxonne, Evelyn Beatrice Hall, et qu'il y a eu peu d'hommes aussi intolérants que Voltaire, anticlérical jusqu'à l'obsession, profondément raciste, méprisant envers les pauvres, antisémite, il cochait toutes les cases. Amusant de constater que François-Marie Arouet l'intolérant serve de référence en matière de liberté de pensée. Notre époque sera demain étudiée avec gourmandise. Tandis qu'une étrange épidémie de suicide atteint des membres éminents de services secrets français en parfaite forme, mais aux prises de position embarrassantes, on décerne la Légion d'honneur à des politiques empêtrés dans les affaires et les vrais nuisibles, les corrompus, les délinquants de tout poil, les pires déviants sexuels, les toxicomanes ultra-violents, comme les fanatiques au couteau vengeur, eux, primo-délinquants comme multirécidivistes, sont comme des poissons dans l'eau au sein de cet univers qui leur témoigne compréhension et mansuétude, puisqu'aussi bien ils sont parfaitement intégrés et utiles au système. Les migrants, victimes de troubles psychiatriques et traités en secret à Paris pour cela, ont vu leur nombre multiplié par 5. On déplace une banque, une école, pour abandonner le terrain aux assassins vendeurs de morlantes, avantageusement rebaptisés dealers, tout en prétendant porter nos pseudo-valeurs en bandoulière à l'international. Le film « C'était demain », Time After Time, sorti sur les écrans en 1979, imaginait un H.G. Wells à la poursuite de Jack l'Éventreur qui s'était emparé de sa machine à voyager dans le temps. Lors d'un moment d'anthologie, le tueur, zappant sur la télévision, expliquait aux savants que ce monde de violence était adapté aux tueurs de son espèce et que l'inadapté au temps moderne, c'était Wells, le petit binoclard savant et moralisateur. Plus de 40 années ont passé et la remarque est plus que jamais d'actualité. Tous les films présentés comme de la science-fiction, tels Fahrenheit 451, Soleil Vert ou L'Âge de Cristal, étaient en fait des anticipations. Pour preuve, Demolition Man, décrivant une société policée incapable de se défendre, ou un délinquant ultra dangereux et hors de contrôle, tandis que des distributeurs automatiques infligent des amendes pour injures aux citoyens lambda. Les gouvernants refusant chez nous d'utiliser les statistiques ethniques dissimulent le taux de criminalité ahurissant des Afghans, notamment en matière sexuelle, en les intégrant dans la catégorie asiatique pour minorer leur impact. Les mêmes ne souhaitaient pas accueillir chez nous les traducteurs afghans qui risquaient leur vie pour l'armée française, rééditant le scénario des Harkis. Ce sera sans doute inédit dans l'histoire de l'humanité, cette propension pour les sociétés occidentales déboussolées à se saborder avec application. La liste de tous les crimes et forfaitures évoqués dans cet ouvrage m'amène à une réflexion. J'ai parfois l'impression que certains individus sont téléguidés pour commettre le pire. Le voisin qui n'avait l'air de rien et qu'on côtoyait chaque jour dans l'escalier devient soudain furieux, que seules des balles parviennent à arrêter, comme si sur certains sites consultés, on avait des sortes de déclencheurs mentaux type MK Ultra permettant d'activer par un logiciel inséré une violence en sommeil, le tueur prétendant ensuite ne plus se rappeler ses actes. Aucune preuve de ce que j'avance, juste une impression que je transmets en guise de clin d'œil. Il est reconnu aujourd'hui que depuis l'affaire Covid, les cas de dérèglements mentaux, de comportements ultra-violents sans motif valable se multiplient, la consommation de drogue en tout genre accélérant ce phénomène, certains poussant d'ailleurs à la légaliser. Ces constats, cette conclusion en forme de point d'interrogation, permettront à certains de dire qu'il s'agissait bien de l'ouvrage d'un auteur complotiste. Les autres, ceux qui ont découvert avec effarement au fil des chroniques le pire du camp du bien, n'écouteront plus les journaux du 20h qu'avec suspicion. Les réseaux sociaux sont vilipendés comme une source de fake news et de manipulation. C'est parfois vrai. On peut toutefois se poser la question de savoir si certains pans de l'histoire n'eussent pas été changés par le smartphone. Imaginez un déporté réussissant à filmer les wagons où l'on enfourne femmes, vieillards et enfants et balançant cela sur les réseaux. Si les cyniques objecteront que ce que nous voyons en direct à Gaza n'empêche rien sur le terrain, il reste que certains pays changent leur fusil d'épaule et réclament des comptes sous la pression des populations. Nous vivons une époque à la fois cruelle et passionnante où destruction et chaos voient émerger un monde complexe échappant à ce que nous connaissions. On ajoutera pour finir que si les complotistes ont souvent eu raison trop tôt, les comploteurs, eux, ne détèlent jamais et travaillent sans relâche à entourlouper leurs dupes sans jamais payer l'addition. Selon Schopenhauer, la vérité passe par trois étapes. Elle est d'abord raillée, contredite, moquée, théorie du complot. Deuxième étape, elle est carrément attaquée jusqu'à la mort s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Certains, et non des moindres, n'ont jamais dépassé la première étape. Je ne résiste pas au plaisir gourmand de rappeler au lecteur ce conte du 19e siècle selon lequel la vérité et le mensonge se rencontrèrent un jour. Le mensonge dit à la vérité « Il fait beau aujourd'hui ». La vérité lève les yeux au ciel et acquiesce. Ils font un bout de chemin ensemble et arrivent devant un puits. Le mensonge propose à la vérité de prendre un bain ensemble. La vérité, constatant que l'eau est à bonne température, accepte. Nos deux amateurs d'eau fraîche se déshabillent et font trempette jusqu'au moment où le mensonge sort de l'eau, revêt les habits de la vérité et s'enfuit. La vérité, nue comme un ver, tente en vain de retrouver le voleur et le monde, horrifié d'apercevoir la vérité toute nue, détourne le regard. Honteuse, la vérité replonge dans le puits pour ne plus en ressortir. C'est depuis ce jour que le mensonge parcourt le monde avec les habits de la vérité à la satisfaction de tous. Sauf que le mensonge ayant pris de l'embonpoint, son déguisement a les coutures qui craquent, dévoilant sous les oripeaux avantageux la putréfaction boursouflée du réel. À nous de ne plus être dupes. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous avons ensemble découvert l'impensable dans cette interminable excursion au pays de la vérité. Lors de notre prochaine rencontre, nous découvrirons des spécimens humains à peine croyables, je vous le garantis.
S'éteint au carreau bleu. Maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en. Maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps. N'est plus ici, n'est plus là. Maintenant que la jeunesse sur d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger. Maintenant que la jeunesse a fui, voleur généreux, me laissant mon droit des neiges et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire. Il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire. On ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. C'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures. L'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, à temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau jamais.